La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Vous savez tous que notre cerveau est composé de neurones, mais saviez-vous que notre cerveau possède aussi donc d'autres cellules qui ont un rôle fondamental et qui s'appellent donc les cellules gliales, cellules méconnues car longtemps négligées. Et pourtant, les cellules gliales possèdent certaines propriétés des neurones, mais elles peuvent aussi expliquer beaucoup de choses comme nos mouvements, nos émotions, nos pensées. Après l'homme neuronal, on peut aujourd'hui parler de l'homme glial et c'est le titre du livre publié par mes invités que je vous présente dans un instant et auquel vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui, consommation d'aliments ultra transformés et risque de cancer.
Oui, avec une étude pionnière menée sur 100 000 Français qui montre un lien entre ces produits préparés et la survenue de cancer. On en discute avec Mathilde Touvier de l'INSERM.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne consacrée aujourd'hui à l'huile de poisson. Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette émission, préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré. Magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
L'homme glial, une révolution, rien que ça dans les sciences du cerveau. Ce livre paraît chez Odile Jacob et nous en parlons avec ses auteurs, les neuroscientifiques Yves Agide et Pierre Magistretti. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Yves Agide, ce titre L'homme glial, clin d'œil à l'homme neuronal de Jean-Pierre Changeux, évidemment.
Un petit peu,
mais... Oh bah carrément, même quand même, non ?
Oui, mais enfin, c'est un complément. Hein. C'est... On avait aussi écrit l'homme subconscient. Donc,
oui, oui, c'est vrai.
Ça veut dire que ces cellules gliales, on va en parler en ce qui concerne l'homme. Oui. L'homme normal, avec ses pensées, et l'homme qui a des maladies du système nerveux.
Oui. Pierre Magistretti, la découverte de ces cellules, c'est vraiment une révolution, le mot est juste, pour les sciences du cerveau ?
Je pense que la révolution est de commencer à comprendre leurs fonctions et notamment leur fonction dans les comportements et le fonctionnement du cerveau. Elles ont été découvertes au milieu du 19e siècle, donc. Mais on les avait décrites, on connaissait leur forme, mais que faisaient-elles ? Ouais. Mystère.
Et sans ces cellules, on le verra, eh bien, les neurones ne pourraient pas fonctionner, par exemple.
Hein. Absolument.
On va en discuter avec les questions des auditeurs, donc découverte des cellules gliales, franceinter.fr pour nous retrouver. Les aliments ultra transformés augmentent-ils le risque de cancer ? Une étude sur l'alimentation de plus de 100 000 Français aujourd'hui à la une de la science.
Moi, mon hachis, c'est du travail d'orfèvre.
La purée, c'est avec de la crème fraîche et du beurre.
Comme ma...
Quelques minutes au four et c'est prêt.
Ah, ma... Elle prend le temps de le faire gratiner lentement.
Oh.
Ouais, goûte.
Aussi perfectionniste que ton papa, toi.
Iram, c'est déjà fait et très bien fait.
Voilà, plat préparé par exemple, barre chocolatée, soupe minute ou encore sauce toute faite, eh bien quels sont les risques pour la santé des aliments ultra transformés ? Avec cette étude menée donc sur plus de 100 000 Français qui montre aujourd'hui une augmentation des risques de cancer chez les consommateurs en lien avec ces produits. Une première étude qui ouvre la voie et dont on discute avec notre invité Axel.
Oui Mathieu, nous sommes avec Mathilde Touvier de l'INSERM, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes épidémiologiste et co-investigatrice de la cohorte Nutrinet Santé sur laquelle se base cette étude. Alors pour savoir vraiment de quoi on va parler, comment est-ce que vous avez défini ces plats ultra transformés dans votre étude ?
Alors on a utilisé pour cela une classification qui s'appelle la classification NOVA, qui a été initialement proposée par des collègues à l'université de Sao Paulo au Brésil et qui catégorise les produits selon leur degré de transformation, donc en partant des aliments peu transformés ou bruts, des ingrédients, des aliments transformés et puis ceux ultra transformés. Et donc dans cette dernière catégorie, on retrouve effectivement tout ce qui est les céréales petit déjeuner, les barres chocolatées, des légumes aussi, mais qui sont déjà préparés avec des sauces, des texturants, des additifs. Donc ce sont des produits qui ont subi des transformations qui souvent ont des additifs et puis aussi une qualité nutritionnelle en moyenne qui est souvent moins bonne que d'autres catégories de produits.
Et vous trouvez une augmentation de 10% de la survenue de cancer chez vos participants qui consomment 10% de ces produits en plus dans leur alimentation. Qu'est-ce que ça nous dit exactement de l'impact de ces produits sur notre santé ?
Alors, on ne peut pas encore parler d'impact parce que ça voudrait dire qu'on a réussi à faire un lien de cause à effet entre ce qu'on a observé dans leur alimentation et le risque de cancer. On n'en est pas encore là. Il s'agit d'une étude d'observation. On a regardé ce que ces personnes mangeaient au quotidien et on a vu qu'effectivement, statistiquement, on avait une association entre le fait de manger plus d'aliments ultra transformés et le fait de développer plus de cancers, notamment de cancers du sein dans cette étude.
Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément leur alimentation.
Ça veut dire que c'est ici la part d'aliments ultra transformés dans le total des aliments qu'ils consomment.
Et plus on mange justement ces plats et plus on observe des risques d'avoir des maladies, des cancers en particulier.
Oui, dans cette étude-là, effectivement, la relation est linéaire. Plus on avait de parts importantes d'aliments ultra transformés, plus on développait de cancers dans cette étude.
Comment est-ce que ces 100 000 personnes vous transmettent les informations concernant leur repas ?
Alors, il s'agit de la cohorte Nutrinet Santé. Donc, les participants remplissent ce qu'on appelle des enregistrements alimentaires de 24 heures. Donc, pendant 24 heures, ils vont noter tous les aliments, les boissons, les bonbons, etc., qu'ils vont consommer dans la journée, les portions consommées également. Donc, on a un détail de plus de 3300 items alimentaires différents possibles pour chacun de ces participants. Et on va également suivre leur état de santé. Et donc, au fil des années, là, on a 8 ans de suivi, hein, jusque depuis le début de l'étude, certains vont développer un cancer, d'autres pas. Et donc, on va pouvoir analyser ces corrélations.
En moyenne, combien ces personnes mangent de plats transformés ou quelle proportion dans leur alimentation ?
Alors, on a une variation de consommation qui va d'environ 8% d'aliments ultra transformés dans le régime pour notre premier quart de la population. Et puis, chez ceux qui en consomment le plus, le dernier quart, on arrive autour de 32% d'aliments ultra transformés dans leur consommation.
Sur la méthodologie, justement, comment vous parvenez à faire cette corrélation ? Parce qu'il y a tellement de facteurs à prendre en compte dans ces cohortes, donc entre l'alimentation et ensuite, en bout de course, le cancer. Comment vous nettoyez finalement toutes les autres informations ?
Alors c'est vraiment précisément le challenge des épidémiologistes d'essayer au maximum d'isoler ce qu'on appelle des biais de confusion, d'éliminer ces biais en prenant en compte, et donc nous on appelle ça ajuster, on ajuste nos modèles statistiques sur des variables telles que la consommation d'alcool, l'activité physique, le tabagisme, le fait d'avoir des cancers déjà dans la famille. Donc tous ces facteurs-là, dont on sait qu'ils peuvent être associés d'une part au risque de cancer et d'autre part à l'alimentation, si on ne les prend pas en compte, ils risquent de brouiller complètement nos résultats. Donc on essaye du mieux possible. On a des techniques statistiques pour faire cela, pour les éliminer. Maintenant, ça reste encore une fois une étude d'observation. Donc prudence, on n'est pas sûr d'avoir totalement éliminé tous les biais de confusion.
Il y a d'autres études qui avaient été menées précédemment qui avaient permis d'associer le risque d'obésité ou l'hypertension à la consommation de ce type de plat. Pour le cancer, c'est vraiment la première fois que c'est fait ?
Oui, c'est la première fois que c'est fait. Effectivement, il y avait des études, notamment chez des enfants et puis chez des adolescents en Espagne, au Brésil, sur les dyslipidémies, donc les problèmes de trop de cholestérol, trop de triglycérides, ou bien hypertension, obésité. Mais sur le cancer, en population, comme ça, chez l'homme, c'est la première fois qu'on regardait cette relation.
Vous avez des pistes pour regarder à l'intérieur de ces plats ou dans ces produits pour expliquer cette augmentation ? Même si, bien sûr, c'est des hypothèses pour le moment.
Oui, c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. C'est-à-dire que là, on a une catégorisation qui est assez grossière. Hein, et évidemment, dans les aliments ultra-transformés, on a vraisemblablement des produits totalement inoffensifs et puis peut-être certains composés par-ci, par-là qui posent problème. Donc, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à distinguer. Parmi les pistes d'explication, on pourrait avoir donc la moins bonne qualité nutritionnelle de ces produits, plus de gras, de sucre, moins de vitamines, de fibres alimentaires. Les additifs qu'ils contiennent, certains, on a plus de 400 additifs autorisés sur le marché européen. La plupart sont certainement très sûrs pour la santé, mais pour certains, certaines études animales ou sur des modèles cellulaires ont suggéré des risques potentiels. Donc, c'est ce qu'on veut investiguer. Et on a aussi la piste des matériaux en contact avec les aliments. Oui. On entend beaucoup parler du bisphénol A, notamment. Donc, ces aliments packagés, donc on a potentiellement ces composés-là. Et puis, les composés qui arrivent pendant la transformation, quand on chauffe les produits, qu'on fait du fumage, ou etc. Donc, là aussi, ce sont des pistes qu'il faut creuser.
Et pour ça, il faut beaucoup de données. Vous cherchez encore des volontaires là, pour rajouter aux 100 000 personnes qui...
Absolument. On recherche vraiment des volontaires pour faire progresser la recherche sur les relations nutrition-santé. Et donc, les personnes qui le souhaitent peuvent s'inscrire sur le site de l'étude Nutrinet Santé. Et il suffit de remplir des questionnaires en ligne. Un questionnaire par mois, pas plus, sur l'alimentation, le mode de vie, etc.
Donc, il faut noter par exemple ce qu'on mange en une journée, c'est ça ? Ça consiste
par exemple.
Ça, oui. C'est le questionnaire. Voilà, donc, résultat de cette cohorte. Et donc, ces observations, pas encore de lien direct de cause à effet, mais en tout cas de fortes suspicions avec ce travail dont vous êtes l'une des investigatrices, Mathilde Touvier. Merci beaucoup à vous et Axel.
À demain. À demain. Ben oui, à demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, un cimetière d'enfants gaulois retrouvé en Normandie, sur la centaine de mètres carrés fouillés par l'INRAP à Falaise, dans le Calvados. Ce sont près de 130 squelettes qui ont été mis au jour, une nécropole d'enfants datant de l'âge de fer, où les Gaulois avaient pour habitude d'enterrer les morts n'ayant pas atteint la puberté, et ce, à l'écart des adultes. Une pratique rituelle qui a perduré jusqu'au Moyen-Âge, précise Vincent Carpentier, qui a dirigé ces fouilles. Des bracelets, divers objets découverts sur les dépouilles confirment d'importants échanges commerciaux entre la Gaule et l'Angleterre il y a 2000 ans. Inverser le développement d'Alzheimer chez la souris, cette étude très intéressante d'un point de vue fondamental vient des États-Unis où une équipe de biologistes a réussi à endiguer le développement de la maladie donc chez des souris. Plus précisément, c'est la formation de plaques moléculaires anormales appelées plaques amyloïdes qui est considérée comme une des causes d'Alzheimer. Grâce à une enzyme spécifique, ils ont réussi à stopper la formation de ces plaques et à restaurer les fonctions cognitives des souris testées. C'est une grande étape sur l'animal. Qu'en pensez-vous, Yves Agide ? Parce qu'il y a beaucoup d'études sur Alzheimer en permanence.
Oui, il y a beaucoup d'études depuis maintenant 30 ans, surtout depuis 10 ans, avec quand même des échecs thérapeutiques considérables. Aucun médicament vraiment original trouvé au cours des 10 ans sur des milliers et des milliers d'essais. Alors, cette étude est très intéressante, mais il y en a d'autres. Et elle pose plusieurs problèmes. D'abord, c'est trouvé chez la souris. Ouais. Et l'expérience montre que ce qui est trouvé chez la souris ne se confirme pas toujours chez l'homme. Bon, la deuxième idée, c'est que les plaques séniles dont vous parlez, la protéine bêta-amyloïde, c'est peut-être quelque chose qui est causal, c'est une hypothèse. Mmh. Il y a une autre hypothèse, c'est que ces déchets, en quelque sorte, du métabolisme du neurone, sont en fait la partie terminale, et que c'est la conséquence et non pas la cause. Mais enfin, de toute façon, ça me paraît quand même très intéressant. Voilà. Je regarde ça de plus près.
Et il faut continuer les recherches, elle vient juste de paraître. Et puis on termine en image avec la galaxie Andromède, la plus proche de la Voie lactée, dont on apprend qu'elle serait née d'une grande collision entre deux galaxies plus petites il y a seulement 3 milliards d'années. Oui seulement, puisqu'à cette époque, la Voie lactée, la nôtre et la Terre étaient déjà formées. C'est grâce à des modélisations menées par des chercheurs français et chinois, dans le plus grand supercalculateur français, que cette estimation était possible. Une reconstruction en vidéo de cette collision est à retrouver sur la page Facebook de la Tête au Carré. Allez, direction le pays des cellules gliales, dans un instant avec nos invités.
Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras. Diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Par toi. Je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée et les cheveux que j'ai coiffés décoiffés par tes mains. Quand la nuit refermait ses ailes, j'ai souvent rêvé. Rêvé. Que dans la soie et la dentelle, un soir je serai la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Donner le souffle qui manque à ma vie dans un premier cri de bonheur. Oh, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours, et l'amour en mon cœur pour connaître la joie nouvelle du premier baiser. Je sais que c'est des amours éternels. Il faut que je sois la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimées.
Et la voix de Chris Garneau, la plus belle pour aller danser.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Attention, nous parlons d'une révolution dans les sciences du cerveau cet après-midi. L'homme glial, ce livre paraît chez Odile Jacob. Je reçois ses deux auteurs, Yves Agide et Pierre Magistretti. Yves Agide, vous êtes neurologue, neurobiologiste, membre fondateur de l'ICM, c'est l'Institut du cerveau et de la moelle épinière au sein du CHU de la Pitié-Salpêtrière. Et puis Pierre Magistretti, vous êtes médecin neuroscientifique et professeur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, au sein de l'Université de Lausanne. Et vous êtes un des pionniers dans le monde, justement, de cette recherche sur la glie. Alors, la glie, la cellule gliale, de quoi on parle exactement? Alors c'est pas très beau comme mot, hein, d'ailleurs. Hein.
En fait, ça veut dire la glu,
comme la
colle.
C'est voilà. Ça, ouais.
Parce que c'est ce qu'on pensait pendant longtemps que ces cellules étaient. Elles ont été découvertes vers le milieu du 19e siècle par un pathologue allemand, Virchow. Et voilà, on a décrit leur forme, on a décrit leur distribution, mais on n'avait pas les outils nécessaires pour comprendre leur fonction. Dans la mesure où, contrairement aux neurones, qui eux produisent des signaux électriques qu'on peut détecter avec des électrodes, ils parlent, les neurones, on peut les écouter, les cellules gliales ne produisent pas de signal électrique, ou pratiquement pas. Donc, ouais. On en a déduit que c'était peut-être de la colle, une sorte de tissu conjonctif qui tient les neurones.
Ah oui, c'est juste ça, oui.
Oui, c'était jusqu'au...
Une bonne glue,
non ouais.
mais comment on les a vus, alors, au milieu du 19e? On avait quels outils pour les observer, alors, exactement?
Bon, là, avec des techniques histologiques assez classiques, ouais. Technique, tout ce qu'elle faisait, c'est décrire la forme, la morphologie. Mais elle nous disait rien, ou elle ne disait rien à ces chercheurs, en termes de leur fonction.
Ouais.
Et ce n'est que dans les années, je dirais au cours de ces 20 dernières années, vraiment, que grâce au développement d'une part de techniques microscopiques dynamiques, qui ont permis de voir que ces cellules répondent, par exemple, à des signaux des neurones, et aussi des possibilités de séparer les neurones et les cellules gliales par des approches méthodologiques. Et donc, on a pu étudier leurs propriétés, surtout biochimiques. Et on a vu qu'en fait, ces cellules contribuaient au dialogue entre les cellules du système nerveux.
C'est ça. C'est un vrai couple, hein, d'ailleurs. Neurones, cellules gliales, c'est ce que vous décrivez. Yves Agide, c'est incroyable cette histoire, hein, franchement. Parce que d'un point de vue de l'histoire scientifique aussi, c'est extrêmement intéressant. Parce qu'effectivement, on les ignorait. Et aujourd'hui, on découvre non seulement qu'elles sont plus nombreuses que les neurones, c'est cellules, mais qu'elles jouent un rôle absolument fondamental pour les individus.
Ouais. Avec Pierre, nous disions, mais imaginons qu'on n'ait pas pu enregistrer l'électricité produite par les neurones au début du XXe siècle.
C'est ça.
On aurait construit des modèles de fonctionnement du cerveau sur les cellules gliales.
Oui, ça aurait été bien.
Complètement.
On aurait fait la même émission en disant, mais dis-donc, on a découvert des neurones.
Des neurones,
exactement. Des câbles, comme ça.
Exactement.
Ouais.
Alors, maintenant, on commence à comprendre, effectivement, que c'est un espèce de couple. On parle d'ailleurs de ménage à trois. Avec les neurones et les interactions entre les neurones entre eux, les cellules gliales, en particulier les astrocytes. Il y a peut-être une nuance qu'il faudrait dire, c'est que quand on dit cellules gliales, on fait appel à plusieurs types de cellules. Il y a des petites cellules qu'on appelle la microglie qui servent à défendre l'organisme contre les infections. Il y a d'autres cellules qui constituent la myéline. Vous savez, la myéline, c'est ce qui entoure les axones des neurones et qui permettent au courant électrique d'accélérer leur vitesse. On passe de quelques 1 ou 2 mètres par seconde à plusieurs kilomètres par seconde.
On parlait de pathologies liées directement à la myéline, d'ailleurs.
Par exemple, la sclérose en plaques, typiquement. Et là, ça n'a rien à voir. Nous avons parlé, pour l'essentiel, d'une troisième catégorie de cellules gliales qu'on appelle les astrocytes.
dites astrocytes à cause de aster, c'est-à-dire l'étoile. Les cellules sont très jolies, elles ont une petite forme d'étoile et situées autour des neurones. Alors, elles ont en effet toutes les propriétés. C'est Pierre Magistretti qui en est le pape, on pourrait dire, de ces cellules gliales sur le plan biochimique. Elles ont des propriétés qui sont très importantes, non seulement celles des neurones, en gros, mais en plus, elles ont deux propriétés essentielles. Premièrement, elles produisent des ondes, des vagues d'un ion qu'on appelle le calcium, et qui vont permettre de faire quelque chose de fondamental, c'est d'intégrer, de synthétiser et de synchroniser toutes les informations produites par les neurones. Vous savez, vous recevez en permanence, d'ailleurs en vous regardant, je vois d'énormes informations qui arrivent.
Vous voyez tout ce champ électrique là qui s'agite.
Voilà, mais il faut synchroniser tout ça et l'intégrer pour arriver à un comportement spécifique. Eh bien, les cellules gliales sont capables de le faire.
Et pas tant. Et qu'est-ce qu'elles sont capables de faire d'autre, alors, Pierre Magistretti ?
Alors, une des premières fonctions qui a été mise en évidence, comme on le dit dans le livre, donc l'homme glial qu'on vient de publier, ces cellules sont des éboueurs et des nourriciers.
Ah ben tiens, il y a une question de Jean-Paul, si vous me permettez, qui dit ceci. Le cerveau produit des déchets, les cellules gliales ne jouent-elles pas le rôle de collecte de ces déchets ? Il connaît déjà le sujet,
félicitations, monsieur Jean-Paul, c'est très bien.
Donc c'est ça, il y a vraiment cette idée de...
Voilà, exactement, et notamment, elles éliminent de la synapse. Donc la synapse, c'est là où les neurones se connectent, s'échangent des signaux, et il y a un neurotransmetteur principal, qui est le glutamate, qui permet à un neurone d'activer plein d'autres neurones, mais ce glutamate peut être dangereux. Si les cellules nerveuses sont si les neurones sont surexcités par trop de glutamate, ils peuvent dégénérer. D'ailleurs, c'est une des hypothèses de certaines maladies neurodégénératives. Alors, la cellule gliale, ce qu'elle fait, elle aspire cet excès de glutamate, mais elle est très écologique parce que non seulement elle aspire les déchets, mais elle attire à l'intérieur du cerveau le sucre, le glucose. Elle fournit de l'énergie aux neurones sous forme d'ailleurs d'une molécule tout à fait étonnante, le lactate, qu'on a longtemps pensé être un produit de déchets aussi, du métabolisme. Mais en fait, le lactate, en présence d'oxygène, donc dans des conditions normales, est un très bon substrat énergétique, comme on dit, c'est de l'énergie. Donc, cet astrocyte est très intelligent, il détecte quand les neurones sont actifs, aspire l'excès de glutamate et fournit l'énergie là où il faut, quand il faut.
Vous vous rendez compte ? Aspirateur écolo et ultra intelligent en plus. Et qui remplace par.
Comprenez pourquoi je suis tombé amoureux.
Ah, ben ça, il y a de quoi, effectivement.
C'est génial.
Absolument. Et ça, c'est ça, c'est une histoire qui dure depuis 30 ans. Alors, c'est pas le cas d'Ivagide, qui lui a fait toute sa carrière sur les neurones et qui ignorait complètement. Allez, complètement, pas tout à fait. Mais en tout cas, elles vous intéressaient pas beaucoup, ces cellules gliales, Ivagide.
Si, elles l'ont toujours intéressé. Mais l'idéologie dominante était celle des neurones, pour les raisons que Pierre a bien expliquées.
Vous parlez de neurochauvinisme dans le livre.
Ben oui, parce que nous étions tous neurochauvinistes jusque dans les années 60-80, disons pour moi. Et puis petit à petit, moi je me suis aperçu que ces cellules gliales, il y en avait, puis dans mon labo à l'époque, on les a comptées. Et on s'est aperçu qu'elles étaient extrêmement abondantes, dans certaines structures plus abondantes que les neurones. Donc on s'est dit, mais on ne peut pas travailler exclusivement sur les neurones. C'est comme si on travaillait sur le cerveau en se disant, je vais travailler uniquement sur la partie antérieure ou à la moitié gauche du cerveau. Non, il faut travailler sur l'ensemble. Et à partir de ces idées-là, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé voir le pape des cellules gliales, c'est-à-dire le monsieur qui est en face de moi.
C'est ça. Comment vous êtes devenu le pape, alors, sa sainteté, Pierre Magistretti?
Écoutez, non, j'ai pas été élu par un conclave.
Non, ça viendra peut-être.
Non, tout simple, comme je le dis dans le livre, par ignorance et hasard, donc pas très...
C'était à l'époque où vous
j'étais un jeune
dans vos études. Hein.
J'étais un jeune doctorant, je faisais ce qu'on appelle un PhD aux États-Unis, je venais terminer mes études de médecine à Genève, et puis je me suis arrangé, j'ai fait un PhD aux États-Unis, puis on m'a mis sur un projet où il fallait déterminer l'action d'un neurotransmetteur, la noradrénaline, qui est très importante pour les mécanismes d'attention et de stress. Et puis, j'ai développé un test, un peu par hasard, pour des raisons qui sont expliquées dans le livre, et simplement, a posteriori, j'ai réalisé que le test que j'avais développé ne pouvait... la réponse ne pouvait avoir lieu que dans les astrocytes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que j'avais montré, c'est que cette noradrénaline était capable de mobiliser les stocks d'énergie que les cellules du cerveau ont, c'est-à-dire du glycogène, comme dans le muscle ou dans le foie, et il se trouve que le glycogène dans le cerveau est seulement dans les astrocytes. Donc c'était la première fois qu'on montrait qu'un neurotransmetteur, une molécule neuronale, agissait, parlait aux astrocytes. Honnêtement, si j'avais su que ces glycogènes étaient dans ces cellules, dans la colle, et en plus il y en a assez peu dans le cerveau par rapport au muscle, j'aurais jamais fait cette manip.
Voilà, c'est donc l'homme glial qui paraît aujourd'hui et ces cellules passionnantes dont on parle dans La Tête au Carré aujourd'hui.
So you're still thinking of me. Just like I know you should. I cannot give you everything. You know I wish I could. I'm so high at the moment. I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke. But we still got love to give while we're young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb. Young, young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke, high school kid. Young, dumb, broke, high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke, high school.
Khalid à l'instant.
La Tête au Carré sur France Inter.
Voilà, l'homme glial, révolution dans les sciences du cerveau avec le pape Pierre Magistretti, son cardinal Yves Agide. Tout ça paraît chez Odile Jacob avec vos questions sur franceinter.fr. Alors, c'est vrai. Alors, vous citez l'exemple choc, hein, dès le début du livre. Le cerveau d'Albert Einstein contenait plus de cellules gliales que le commun des mortels. Vous frappez fort, hein. Quand on sort Albert Einstein, en général, on veut épater le public. On a vraiment pu calculer le nombre de cellules gliales dans le cerveau d'Einstein?
Il faut prendre cette observation avec des pincettes, oui. Il y a une pathologue à Los Angeles, à UCLA, qui a compté ça, montré que sur une région du cortex cérébral, il y avait encore plus que ces 1,6 fois que
le commun des mortels.
Mais je dirais, ce qui est plus intéressant, c'est plutôt de voir dans l'échelle zoologique...
Permettez-moi, par exemple, puisque vous parlez de l'intelligence et des capacités cognitives et du rôle des cellules gliales, ça pourrait être aussi une explication pour peut-être expliquer certaines choses, des capacités... Alors, des génies, non
Écoutez, je crois que là, il faut être prudent quand même. C'est plus une anecdote qu'autre chose pour attirer l'attention. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que toute une série de données qui a été démontrée au cours de ces 10 dernières années, l'astrocyte joue clairement un rôle important dans ce qu'on appelle la plasticité neuronale et la mémoire. Parce que elles fournissent des molécules qui rentrent, qui sont des sortes de turbos pour les neurones, qui font que les neurones sont le site de plasticité de manière plus efficace. Donc, en effet, sur la mémoire.
Yves Agide, alors, au cours de l'évolution, oui, ça c'est intéressant. Hein, vous dites que les espèces les plus évoluées ont plus de cellules gliales que les autres.
Mais c'est ça qui est extraordinaire, cette moitié oubliée du cerveau, au fond. Non seulement il y en a plus de cellules gliales que de neurones, ou moins autant, disons, ou moins autant, mais en plus, au cours de l'évolution, plus on est intelligent, plus on a des cellules gliales. Ouais. Alors l'exemple qu'on donne, c'est la sangsue. Il y a une cellule gliale pour 6 neurones, 1 sur 6, alors que chez nous, c'est plutôt un peu plus de cellules gliales que de neurones. Et il y a une corrélation. Alors, corrélation ne veut pas dire relation, bien entendu. Mais enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a frappé. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible de travailler sur les comportements de l'homme, d'essayer d'améliorer nos fonctions cognitives, de trouver des solutions pour les gens qui ont des maladies d'Alzheimer, par exemple, et en ignorant toutes ces cellules gliales. C'est fou.
Ouais. Alors, justement, vous dites que ça a été la stupéfaction pour vous, lorsque vous avez été invité à l'occasion d'une réunion scientifique organisée par le Club des cellules gliales. Il y a club.
Alors, l'idée, si vous voulez... On raconte ça, c'est vrai, parce que les Français, en particulier mes amis de l'ICM, organisent tous les ans une réunion scientifique sur les cellules gliales. C'est un petit nombre de chercheurs à l'époque qui travaillaient sur ces cellules gliales et qui ne travaillaient pas sur les neurones. Vous aviez deux courants, il y a longtemps, il y a 30 ans, des gens qui travaillaient uniquement sur les neurones, comme moi, dans mon laboratoire à l'époque, et puis des gens qui commençaient à travailler exclusivement sur les cellules gliales.
C'est fou.
Mais le pont ne se faisait pas. Tel n'est plus le cas aujourd'hui.
Ouais.
Et bon, mais c'est intéressant de penser que, en science, comme d'ailleurs dans le reste de la vie mentale, ces cloisonnements limitent nos avancées.
Bah, surtout que là, vous parlez vraiment d'un binôme absolument essentiel. Neurones, cellules gliales, l'une ne va pas sans l'autre. Enfin,
absolument. Je dois dire que, bon, évidemment, j'étais tout à fait au fait du rôle des cellules gliales en abordant ce livre, mais en faisant. Disons l'inventaire avec Yves, notamment également le côté dans des pathologies. En faisant cet inventaire, j'ai été moi-même stupéfait des données, vraiment de la montagne de données qui existent devant les yeux de tout le monde sur l'importance de ces cellules gliales. Mmh. Et j'aime bien cette citation qui est attribuée à William James, qui dit « Lorsqu'on vient avec une nouveauté en science, la première réaction, c'est faux ». La deuxième réaction, quand les données s'accumulent, c'est « oui, oui, c'est intéressant, mais enfin bon, so what, comme on dit, à quoi, c'est vraiment important ». Et puis, le troisième moment, c'est « ah, mais on a toujours su que c'était important
». Et donc vous êtes dans la deuxième phase, plutôt, en ce moment.
On est deux, tendance trois.
Et vous tendez, voilà, c'est ça, vers la troisième. Bon, c'est bien, parce que là, il y a énormément de choses à faire. Non, mais du point de vue de la recherche, là, c'est un champ immense qui s'ouvre, imagine.
C'est un champ immense pour comprendre les comportements de l'homme. Qu'est-ce que la pensée ?
C'est quand même
pas
rien.
On veut comprendre comment un cerveau matériel, quand même, produit une pensée qui est, entre guillemets, immatérielle. C'est quand même un énorme problème pour comprendre les fonctions, la fonction de l'homme, même, normale, mais aussi en pathologie, pour toutes les maladies du système nerveux pour lesquelles nous sommes souvent désarmés, contrairement aux affections périphériques, les maladies neurodégénératives, l'épilepsie, la sclérose en plaques, etc., etc.
C'est-à-dire que si on observe ces maladies aujourd'hui à la lumière aussi des cellules gliales, on a peut-être beaucoup de choses qui vont se révéler et qui vont permettre d'avancer beaucoup plus vite pour soigner ces pathologies.
Par exemple, de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques. Jusqu'à présent, à ma connaissance, dans l'industrie pharmaceutique, enfin pour l'immense majorité, les gens cherchent des cibles thérapeutiques, des récepteurs qu'on va modifier avec des médicaments ou avec divers procédés, pour stopper par exemple l'évolution de la maladie d'Alzheimer ou mais éventuellement même la traiter de manière préventive si on peut arriver à faire des diagnostics ultra précoces, eh bien maintenant il va falloir chercher la même chose sur les cellules gliales. Ça ne veut pas dire qu'il faut les chercher exclusivement sur les cellules gliales,
non, mais
au moins sur les deux.
Oui, mais c'est ça.
Et peut-être
qu'en
attaquant l'un, on va potentialiser l'autre.
Non, puis il faut tout de même dire, faire un constat qui est un peu navrant, c'est que 30 ans de recherche et de beaucoup de ressources investies, notamment par l'industrie pharmaceutique, pour essayer de traiter des maladies du système nerveux, il faut bien le dire, peut-être à part la sclérose en plaques et peut-être certaines formes d'épilepsie, le succès n'a pas été, on va dire, même c'est un échec fondamental, à tel point d'ailleurs que beaucoup d'industries pharmaceutiques se sont retirées du marché des neurosciences. Et donc l'idée, c'est pourquoi pas aller chercher des cibles dans les cellules gliales.
Jean-Paul demande quel rôle jouent ces cellules dans notre système immunitaire. Est-ce qu'on en sait quelque chose de précis là?
Oui, disons, c'est surtout les cellules microgliales qui jouent certainement un rôle important. Les astrocytes, eux, répondent par exemple à des molécules comme ce qu'on appelle les cytokines, qui sont des médiateurs du système immunitaire. Donc, peut-être qu'elle joue aussi un rôle, mais je dirais que c'est plutôt les cellules microgliales qui sont importantes.
Ouais, et puis Jean-Baptiste demande, concernant ces cellules astrocytaires, est-ce qu'on peut envisager que les réseaux qu'elles forment ont une capacité d'intégration de l'information, au même titre que les réseaux de neurones, Ivagide?
Mais bien sûr, c'est ça la découverte, à mon avis, principale pour expliquer nos comportements. C'est que, comme je le disais un instant, nous recevons des myriades et des myriades d'informations. Les neurones sont organisés dans un brouillamini absolument extraordinaire. Comment est-ce que toutes ces informations vont déboucher, chez vous, chez moi, sur un comportement adapté, comme par exemple ce que j'essaie de dire en bougeant ma langue et mon larynx pour dire des mots cohérents? Eh bien, là, on sait, dans des travaux expérimentaux extrêmement bien faits, on peut montrer que ces cellules, les astrocytes en l'occurrence, jouent un rôle en intégrant l'ensemble des informations apportées par les neurones, les synchronisent, c'est-à-dire que les informations vont se développer ensemble pour donner un comportement très spécifique. C'est absolument fondamental. Et on sait pourquoi. Une des grandes raisons, c'est que justement ces cellules gliales, à la différence des neurones, disposent de ce qu'on appelle des gap junctions, à travers lesquels des ondes calciques permettent de communiquer les uns avec les autres. Et donc, les astrocytes vont, avec ces ondes lentes, de calcium très lentes, vont donner des informations qui vont passer de cellule gliale en cellule gliale, même sur plusieurs millimètres, plusieurs millimètres, et pendant des temps très longs. C'est fondamental.
C'est donc, pour répondre à cette question de cet auditeur, il y a un réseau astrocytaire qui est en fait constitué par ces connexions dont vient de parler Ivagide.
Alors c'est vrai que quand on parle de neurones, on parle uniquement du cerveau. Enfin très souvent, on fait association, le cerveau, ce sont les neurones. Il y en a dans le corps entier des neurones en réalité.
Bien sûr, il y en a dans le tractus digestif, il y en a à la périphérie. Et il y a des cellules gliales aussi.
Pareil, même chose.
Mais en fait, il y a un seul type fondamental qui a diverses fonctions. On appelle ça les cellules de Schwann, qui ont la capacité d'une part de produire la myéline comme les oligodendrocytes et d'autre part de aussi soutenir l'activité, peut-être moduler l'activité des neurones comme les astrocytes.
Alors quand on parle de la plasticité cérébrale, Ivagide, quel est le rôle des cellules gliales là-dedans?
Bon, elles jouent un rôle à toutes les étapes de la vie, dans le cerveau vieillissant, en empêchant la souffrance des neurones par exemple, à l'étage adulte en permettant d'adapter l'organisation des neurones pour changer de tâche, par exemple, quand vous apprenez quelque chose de nouveau, les neurones vont se distribuer de manière légèrement différente et les cellules gliales jouent un rôle essentiel. Et elles jouent un rôle encore plus important au cours du développement chez l'embryon. On se rappelle qu'un cerveau chez un nouveau-né, ça pèse 300 grammes, alors que votre cerveau pèse 1350 grammes.
Ah oui, parce que j'allais dire 350 grammes, c'est quand même pas beaucoup.
1350. Et donc, pendant ce développement, la multiplication des cellules, la croissance des neurones, les astrocytes sont là et c'est eux qui servent de tuteurs, en quelque sorte. Ils permettent aux neurones qui vont se répandre dans l'ensemble de votre cerveau, les astrocytes vont servir de tuteurs de telle sorte que les neurones vont monter le long de ces tuteurs pour se placer correctement dans votre cerveau.
On se retrouve dans un instant, dernière partie de l'émission et d'autres questions pour vous sur franceinter.fr.
J'aimerais un son, une fusion. Ni être un homme, ni être une femme. Y a-t-il un nom, une solution dans ma langue?
De la musique la semaine dernière pour l'Anomalie avec en extrait à l'instant Une âme.
La tête au carré sur France Inter.
Je suis sûr que comme moi vous découvrez aujourd'hui les cellules gliales grâce à nos invités, Yves Agide et Pierre Magistretti qui publie donc L'Homme glial, cette révolution dans les sciences du cerveau chez Odile Jacob avec vos questions d'ailleurs sur franceinter.fr. Jean-Paul qui demande si ces cellules jouent un rôle dans le sommeil. Qui veut répondre, Yves Agide?
Oui, elle joue un rôle dans le sommeil. C'est d'ailleurs intéressant parce que ça avait été imaginé, suggéré à la fin du 19e siècle par un génie qui s'appelait Ramon y Cajal, simplement par l'étude morphologique. Il avait vu simplement que ces cellules gliales s'inséraient au milieu des neurones. Et il avait fait une mauvaise interprétation, mais on vient de démontrer maintenant que justement, les cellules gliales, normalement, empêchent parfois la transmission nerveuse d'un neurone à un autre, mais en s'écartant par les branches de ces cellules gliales, en s'écartant légèrement, à ce moment-là, elles s'ouvrent, la transmission se refait et le sommeil apparaît.
Pierre Magistretti, Françoise demande si on fabrique des cellules gliales tout au long de notre vie.
Oui, c'est en fait le phénomène qui était bien connu de la neurogenèse, c'est-à-dire à partir de cellules souches, on produit soit des neurones, qui était quelque chose de réjouissant, mais aussi c'est réjouissant de savoir qu'on produit des cellules gliales tout au long de la vie. Et si vous voulez, c'est une autre forme de ce qu'on appelle la plasticité neuronale, dans lesquelles, et qui donc, cette plasticité neuronale est à la base des phénomènes de mémoire. Et comme on le dit dans le livre, on a toute une série de mécanismes moléculaires basés au niveau de la cellule gliale qui viennent moduler l'efficacité de la transmission entre les neurones. Mmh. Comme je l'ai dit, je crois, tout à l'heure, c'est comme des turbos pour les neurones. Et cette transformation de l'efficacité neuronale au niveau des synapses, c'est une des bases de la mémoire. Mmh. Donc c'est quand même intéressant que ces cellules qui étaient considérées de la colle, en fait, soient importantes pour un des phénomènes fondamentaux de l'humain.
Mais on en fabrique de la même manière tout au long de la vie ou moins quand même en fin
Alors,
de vie,
on en produit moins, comme pour les neurones, on en produit moins, mais tout de même, on en produit toute la vie.
Ouais, imagine.
Oui, non, on raconte une expérience, on raconte plein d'expériences concernant la mémoire. Si vous prenez vous purifiez ces cellules gliales humaines, tirées d'un cerveau humain, et que vous les mettez dans le cerveau d'une souris, elle apprend plus vite.
Ouais.
Voilà un exemple, par exemple.
Mais ça prouve vraiment que ça joue un rôle décisif
c'est
sur les capacités
cognitives. C'est une des expériences.
Vous
savez, en science, ce n'est pas une expérience qui démontre tout. Il faut confirmer et avoir plusieurs expériences pour affirmer.
Ouais. Alors du coup, il y a plein d'auditeurs séduits par vos cellules gliales là, qui se demandent comment les booster. C'est le cas de Dominique. Est-ce que la production de cellules peut être boostée et comment? Est-ce qu'il faut une alimentation particulière? Et Louise demande si un jour on pourrait transformer ces cellules en nouvelles cellules neuronales. Alors, première partie de la question, comment est-ce qu'on pourrait booster ces cellules gliales comme les neurones a priori ou pas?
Bah, c'est-à-dire bon, qu'on ne sait même pas tellement
si comment booster
les neurones.
Hein. Qu'on puisse savoir comment on les booste.
Mais disons, maintenant que l'on connaît un certain nombre de mécanismes qui sont basés au niveau des cellules, par exemple la fourniture d'énergie aux neurones, on peut s'imaginer de développer des molécules qui vont rendre ces cellules gliales plus efficaces pour fournir l'énergie aux neurones là où il faut, quand il faut. Et pour ce qui est de la deuxième partie, donc...
Est-ce qu'on pourrait transformer les cellules gliales en nouvelles cellules neuronales?
Alors aujourd'hui, vous pouvez prendre une cellule des follicules capillaires et vous pouvez en faire un neurone. On peut tout faire aujourd'hui. Ça s'appelle... en fait, on peut prendre une cellule, comme on dit, différenciée, une cellule de la peau, la faire revenir au stade embryonnaire et puis en faire des cellules cardiaques, des cellules musculaires, des neurones ou des astrocytes.
Ouais. Très pratique, imagine.
Oui, c'est-à-dire que c'est théoriquement possible, parce que l'expérience a montré qu'on pouvait le faire. L'application à l'homme, il ne faudrait tout de même pas penser qu'on va nous prendre une cellule de la peau et faire un clone de nous-mêmes avec cette cellule de la peau. Ce n'est pas encore pour aujourd'hui, ça.
Non, et puis l'autre
J'espère
chose, c'est
pour
que
jamais, d'ailleurs.
Une chose, c'est de produire des nouvelles cellules, et notamment des neurones ou des astrocytes, mais après, il faut qu'ils se connectent dans les réseaux, sinon ça ne sert à rien. Est-ce qu'on va avoir un téléphone qui n'est pas branché?
Pierre Magistretti, il y a déjà des recherches qui sont menées sur le lien justement entre ces cellules et nos comportements aussi, alors?
Oui, il y a en tout cas j'ai parlé de la mémoire, on a parlé de la mémoire, il y a aussi l'exemple de la dépression par exemple. Alors c'est un comportement, enfin c'est une situation pathologique dans laquelle on a démontré clairement qu'il y a une diminution de nombre des cellules gliales dans certaines régions du cerveau.
Ça c'est intéressant alors,
oui.
Parce que là aussi on a une piste
On a tout
explorer,
à fait une piste et on a montré que en donnant à des... souris ou des rats entre guillemets dépressifs, c'est-à-dire qui ont perdu le plaisir, par exemple, pour choisir de l'eau sucrée ou de l'eau qui n'a pas de goût, le petit raton, il préfère l'eau sucrée. Mais un rat dépressif, c'est-à-dire qui est stressé, par exemple, comme l'humain, qui est stressé et devient dépressif, eh bien, si on donne une molécule qui est, par exemple, le lactate produite par les astrocytes, eh bien, on peut réverser cet état dépressif. Donc ça ouvre quand même des perspectives thérapeutiques.
Donc là aussi, c'est vu chez l'animal, mais il faudra la transposition n'est pas faite encore chez l'homme, Ivagide.
Pour la dépression?
Oui.
Non. Il faut comprendre, c'est très difficile de savoir ce qu'on peut faire pour une dépression. Qu'est-ce que c'est qu'une dépression, d'abord? Elle n'existe vraiment que chez l'homme. Et alors, si vous voulez analyser la dépression chez l'homme, il faut regarder leur cerveau. On ne peut pas prendre le cerveau de tous les dépressifs et regarder ce qu'il y a dedans. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les cerveaux de suicidés. Un suicidé, a priori, il est déprimé, mais pas toujours. Les dépressions, c'est très polyvalent, c'est très complexe. Et les suicidés, c'est pas forcément de la dépression. Donc, il y a des travaux, mais ils sont souvent un peu contradictoires. En revanche, dans certaines maladies neurologiques, on a des résultats qui commencent à être probants.
Oui, alors justement, dans les maladies neurodégénératives, là, il y a tout un champ aussi qui s'ouvre, finalement.
Oui, il y a un champ, alors avec des travaux extrêmement précis et très intéressants. D'une part, dans la maladie de Parkinson, par exemple, on a montré, c'est dans mon labo que ça a été montré d'ailleurs, que les cellules gliales ont un effet protecteur, sans entrer dans le détail. Mm-hmm. Ça, probablement, ça joue un rôle pour limiter le processus pathologique.
Ouais.
Dans la maladie d'Alzheimer, ça pourrait être un peu l'inverse. Dans la maladie d'Alzheimer, d'abord, il y a le fait que les astrocytes, comme on l'a dit au début, sont capables d'éliminer des déchets. Comme dans la maladie d'Alzheimer, les neurones produisent des déchets, on en a parlé tout à l'heure, par exemple, de cette protéine bêta-amyloïde. S'il y a trop de cette protéine bêta-amyloïde, à ce moment-là, l'astrocyte gonfle, il ne peut plus tout faire, il ne nourrit plus le neurone et le neurone souffre. Il y a une autre chose fondamentale, c'est que les astrocytes produisent un lipide qui s'appelle l'ApoE, et quand il y en a plusieurs formes, si vous êtes ApoE4, vous avez 8 fois plus de chances d'avoir la maladie d'Alzheimer que si vous avez une autre forme de cette ApoE.
Pierre Magistretti, pour terminer avec cette question de Marie-Claire, quel rapport entre ces cellules et le cancer qui s'appelle les glioblastomes?
Alors, le glioblastome est une tumeur des cellules gliales,
ouais,
qui est malheureusement une tumeur extrêmement agressive et c'est clair que c'est, il y a pas mal de recherches là-dessus. Peut-être que Yves, comme clinicien, tu peux commenter.
Ben oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, dans le cerveau, les neurones sont matures. Chez un centenaire, les neurones ont vécu 100 ans. Ils ne se multiplient pas. Les autres cellules se multiplient, les cellules gliales, et donc elles sont capables de donner des cancers en se multipliant par excès. Et c'est un des grands drames de notre spécialité, la neurologie, de ces tumeurs qui sont soit bénignes, ce qu'on appelle des gliomes, soit des glioblastomes qui sont malins et qui malheureusement sont très très sévères.
Merci messieurs, c'est passionnant, ça s'appelle l'homme glial et en 190 pages, eh bien, on a justement une découverte sur ces cellules méconnues, cette révolution dans les sciences du cerveau, et ça paraît chez Odile Jacob. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous en parler, Yves Agide et Pierre Magistretti. À bientôt.
Merci.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
L'homme qui pique nous a rejoint. Dominique, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et vous avez choisi aujourd'hui de nous parler de l'huile de poisson comme sujet polémique du jour.
Oui Mathieu, toutes nos certitudes alimentaires s'écroulent en ce moment. Dernière victime, l'huile de poisson gras, complément alimentaire prôné depuis 40 ans pour prévenir l'infarctus. Eh bien, une synthèse toute récente et particulièrement solide ne lui trouve aucun effet protecteur sur le cœur. On commençait à avoir des doutes depuis quelques années, mais là, c'est vraiment plié.
Bon, bah zut, alors qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, c'est une histoire très instructive qui montre comment un mythe peut se construire sur un autre mythe. Et ça commence au nord du Groenland en 1976. Ce gigantesque désert glacé est habité par des Inuits, on l'appelait Esquimaux à l'époque. Leur alimentation est très particulière, hein. Beaucoup de viande de mammifères marins, du poisson, avec de la graisse de phoque comme légumes et de la peau de narval comme dessert.
Ça donne envie.
Oui, comme vous dites. Et pourtant, les Inuits semblaient être épargnés par les maladies cardiovasculaires. Alors, comment expliquer ce mystère? À l'époque, l'hypothèse des graisses d'animaux boucheuses d'artères était en plein boom, et encore plus incompréhensible, les Inuits avaient un taux de cholestérol anormalement faible en regard de ce désastre diététique apparent dont la seule évocation faisait s'évanouir les cardiologues. Et donc, aveuglés par le gras qu'ils avaient dans les yeux, les chercheurs ont mis en avant la présence de graisses polyinsaturées, qu'on appelle oméga-3, dans la chair des poissons gras consommés par les Inuits pour expliquer le paradoxe. D'où la mode des compléments aux huiles de poisson pour protéger le cœur.
Ben oui, c'est très bien ça. Et alors, fausse piste?
Ben oui, totalement. En fait, les chercheurs, ils auraient mieux fait de s'intéresser à ce que les Inuits ne mangeaient pas. Et le grand absent qu'on a négligé, c'est le sucre.
Ah.
À part quelques baies comestibles au cœur de l'été, le sucre était totalement absent de l'alimentation des Inuits. Et depuis que les bienfaits de la civilisation leur ont fait découvrir les aliments sucrés et les sodas, leur taux d'infarctus monte en flèche. Alors bien sûr, d'autres facteurs comme l'oisiveté et le tabac entrent en jeu, mais la protection du cœur des Inuits était sans doute beaucoup plus liée à l'absence de sucreries qu'aux oméga-3.
Ouais.
Alors remarquez, on aurait pu s'en douter devant le taux d'infarctus très élevé chez les Nordiques, grands consommateurs de hareng et de saumon. Mais bref, encore une fausse piste que confirme donc la méta-analyse publiée par une équipe internationale dans le JAMA et qui ne trouve aucune différence significative entre le taux d'accident cardiaque chez les sujets recevant l'huile de poisson et ceux recevant le placebo. Mais comme l'hypothèse de départ était fausse, c'est pas vraiment étonnant.
Alors qu'est-ce qu'il en est pour la consommation de poisson?
Vous avez raison de rappeler que cette étude parle de compléments alimentaires contenant de l'huile de poisson et non du poisson lui-même cuisiné et servi dans nos assiettes. Alors sur ce point, nous n'avons pas d'études randomisées et il est très difficile d'interpréter les données des études d'observation bourrées de biais statistiques. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le poisson est probablement préférable à la viande. Alors, autant en manger si on aime ça, mais ça sert à rien de se forcer.
Voilà, donc l'huile de foie de morue...
Pas pareil, ça c'est la vitamine D.
Ah, on peut en prendre quand même. Bon, merci beaucoup Dominique, à la semaine prochaine. Et c'est terminé pour cette tête au carré. Maxime Ingrand, Élise Christophe était à la technique. Demain, on se retrouvera comme tous les vendredis avec le club de la tête au carré.